sentez bien le rikiki, la pastille quotidienne du rocking chair.
Qu'est-ce que c'est encore ce truc? Qu'est-ce que c'était?
Je suis dans une humeur Louis XIV.
Voilà. C'était du clavecin, c'est ça?
Exactement, mais tu es très bon, du clavecin, tout à fait.
Allez, bonjour très chers auditeurs, bonjour mon camarade Rémi, c'est lundi, c'est le retour du Rikiki après un long week-end d'ennui. Oui. C'est donc qui commence mon camarade, alors tu vas nous parler d'un bouquin que tu viens de terminer, d'un auteur que nous aimons tous les deux.
Tout à fait, c'est notre cher ami Bret Easton Ellis qui a sorti, après pas mal d'années sans rien faire, qui nous a sorti White, qui est un roman mais qui n'a absolument rien d'une fiction. C'est un peu, alors ça peut peut-être décevoir forcément, parce qu'on attend toujours des bouquins de la trempe de moins que zéro, American Psycho, ou la loi de l'attraction, tout ce genre de trucs. Bon, après, il a un peu vieilli aussi, donc maintenant il a sorti White, qui est plutôt un bouquin qui parle de lui, il aime beaucoup. Et qui parle, en tout cas, c'est un bouquin dans lequel il donne son avis sur beaucoup de choses qui lui tiennent à cœur. C'est un peu, alors c'est très très bien écrit hein, comme toujours. C'est ouais. Tu te rends compte à travers ce bouquin, je vais pas expliquer, enfin, je vais pas détailler tout ce qu'il raconte parce qu'il y a pas mal de sujets très intéressants qui prêtent à débattre parce qu'il a quand même des avis plutôt tranchés le monsieur.
Oui, en général, oui. Là, on dit oui, c'est plutôt, il est assez péremptoire comme garçon.
Oui, mais c'est pas de la provoque, tu vois. Il aimait bien quand il était sur Twitter. Malheureusement, il n'y est plus. Autant il aimait bien faire des petits tweets provoques parce qu'il tweetait comme n'importe quel tweetos, donc il donnait ses avis rapidement. Et ben voilà, il a pas le même impact quand il tweete que moi, tu vois. Par exemple, quand je dis putain Jean-Michel Aulas, tu nous casses les couilles. Bon, ben voilà, tout le monde s'en fout. Mais quand lui dit comment s'appelle Catherine Bigelow, si ça avait été un homme, des mineurs n'en auraient jamais entendu parler. Bon, ben tu vois, ça a un autre impact, quoi.
Eh oui.
Non, j'ai un peu exagéré, il dit pas vraiment ça, mais il le pense en tout cas. Enfin voilà, c'est un super bouquin, ça se lit très bien. Il donne ses avis notamment sur, évidemment, sur les élections présidentielles. Hein. On l'a beaucoup interrogé là-dessus, puisqu'il avait fait un petit peu la tournée des popotes sur à peu près toutes les émissions dans lesquelles on traite de bouquins.
Tu l'aimes bien cette expression, la tournée des popotes.
La tournée des popotes, ben oui, ben écoute, ça résume bien, je trouve, cet exercice de style auquel se prêtent nos chers écrivains, réalisateurs et autres. Et tourner des popotes, oui, il avait été chez Trapenard, il a été dans la grande librairie, il a été à C'est à vous.
Il était chez Click.
Ce qui était drôle, c'est qu'il racontait vraiment tout le temps la même chose.
Ah bah oui, il était en promo, hein. Bah oui.
C'est un exercice qu'il aime pas trop, la promo. Ouais. Il le sait, il le dit, on le sait, mais il le fait, il s'y prête, voilà, parce que bon, ben c'est son gagne-pain, hein.
C'est le service après-vente.
Service après-vente, c'est comme ça qu'il vend ses livres.
Et, mais, oui.
Mais écoute, ça vaut le coup. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Quand t'aimes cet auteur, en plus, t'aimes bien un peu rentrer dans sa tête et comprendre un peu pourquoi il a écrit. C'est moins que zéro et compagnie. C'est intéressant parce qu'il parle au début de. Ça démarre sur les adaptations, entre autres, de certaines de ses œuvres au cinéma. Il aime beaucoup le cinéma. Il en parle beaucoup, d'ailleurs, dans le bouquin. Il cite des films que je n'avais jamais vus. Et du coup, cette semaine, je me suis fait un petit trip. Tu as dû le voir à travers mes posts, un petit trip années 80. C'est pour ça que j'ai vu pas mal de films des années 80 un peu obscurs, parce que c'était lui qui en parlait.
D'accord.
Et j'ai des belles surprises, des films avec des jeunes Nicolas Cage, avec un jeune... avec surtout Sean Penn, un jeune adolescent dans un lycée, mais je te jure, tu verras, ça trogne, c'est incroyable.
Ouais. C'est quel film ça ?
Fait... Oui ?
Le film avec Sean Penn, adolescent, c'est quoi le titre ? Tu l'as ?
Alors, c'est Ça chauffe à. Oui, alors le titre français est assez dégueulasse, c'est Ça chauffe au collège Richmond.
Oh punaise.
Mais franchement, le film est très bien. D'accord. Quand tu regardes, tu vois qu'il a des super notes et tout. C'est un teen movie. Alors, c'est pas le Breakfast Club, mais c'est clairement dans cette veine-là.
Ouais.
C'est c'est évidemment un impact beaucoup moindre, mais on est dans ces mêmes codes là, donc ça vaut vraiment le coup. Puis c'est rigolo de voir ces acteurs, ces gamins quoi. Donc il y avait Sean Penn, il y a Forest Whitaker aussi qui fait un footballeur américain immense. Ah, ouais. Enfin, c'est super drôle.
Beau bébé.
Très beau bébé, ça c'est clair pour le coup. Et donc voilà, pour revenir à Bret Easton Ellis, il parle un peu de toutes ces adaptations, ce qui m'a permis moi de voir, je savais pas qu'il y avait une adaptation au ciné de Moins que Zéro. Donc est-ce que tu l'as lu toi?
Ah ben, c'est le premier Bret Easton Ellis que j'ai lu.
Ah ben voilà,
j'ai commencé c'est son par celui-là. Aussi,
qu'il a écrit à 21 ans.
Ouais, ouais.
C'est le bouquin qu'il a fait connaître, etc. Qui avait qui a lancé toute une espèce de littérature pas nihiliste, mais pas loin quand même, avec des personnages en tout cas un petit peu dans ce sens-là. Et donc ce film a été adapté au ciné et je ne le savais pas. Alors avec une traduction française, le nom franchement du film, donc en anglais, c'est Less Than Zero, très bien.
Ouais, très bien.
Ils nous ont traduit ça par Neige sur Beverly Hills. Je trouve ça absolument dégueulasse. Et en plus, je n'ai pas Tonton John d'Amérique et qui m'a procuré le film n'a pas trouvé autre chose qu'une VF.
Ouais.
Alors c'est compliqué. Une VF qui se transforme dans les dernières minutes, je ne sais pourquoi, en VO sous-titré, juste pour la dernière scène. Et dedans, il y a un jeune Robert Downey Jr. qui doit avoir 20 ans et ça fait bizarre aussi. Et c'était pas nul, mais bon, l'adaptation est quand même pas terrible. Voilà.
Après, le bouquin, dans mon souvenir, c'est assez chaotique quand même, Moins que Zéro. Hein. Au niveau du scénario, il se passe pas grand chose.
Ils prennent de la drogue, voilà, ils s'ennuient, ils vont voir machin. Qu'est-ce que tu fais, Julianne? Ah ben je vais truc. Ah ouais. Tout ce qui fait quand même l'intérêt du bouquin, qui fait que tu ne décroches pas ces pages, c'est totalement absent du film. Même si le film en lui-même est pas nul, tu le regardes très facilement, il dure 1h30, ça se regarde bien, mais ça a pas du tout l'impact du bouquin, évidemment.
Ouais.
Donc très mauvaise adaptation, mais film moyen.
Ouais.
Voilà, Bret Easton Ellis, que dire de plus?
Que les lois de l'attraction, le film avec James Van Der Beek qui jouait dans Dawson est pas mal du tout.
Roger Avery, ouais.
Ouais, en plus c'est Roger Avery, ouais.
Avec je sais pas si tu te rappelles l'affiche où t'as des peluches qui font l'amour, t'as plein de positions différentes.
Je m'en souviens parfaitement, mais j'avais bien aimé ce film. Moi j'en garde un bon souvenir. Et Roger Avery, quand même, c'est quand même le mec qui avait fait Killing Zoe, qui est un film qui, si tu ne l'as jamais vu, que je te conseille vivement, avec Jean-Luc Anglade dans un rôle de braqueur complètement fou. Et là, dans les lois d'attraction, James Van Der Beek alias Dawson était très bon. Vraiment.
D'ailleurs, il parle de James Van Der Beek dans son bouquin, vu qu'ils sont devenus amis.
Ah bah, très bien.
Il en parle. Il y a entre autres un des chapitres où il parle des acteurs à peu près de cette époque-là, voire même un peu plus jeunes, enfin un peu plus vieux plutôt, ceux qui faisaient partie du Brad Pack.
Ouais.
Donc ceux qui tournent principalement dans Breakfast Club ou dans The Outsider, ce genre de truc là. Donc il y a tout un paragraphe là-dessus.
Ah.
C'est vraiment passionnant parce qu'il a quand même des avis, puis il connaît beaucoup de gens, évidemment, beaucoup de soirées, beaucoup de drogue, etc.
Forcément.
C'est vraiment un bon bouquin. Après, il y a des avis, forcément, tu seras pas forcément d'accord avec lui tout le temps ou pas. De toute façon, c'est un peu le jeu, hein. Mais il a des points de vue très intéressants qu'on ne peut plus vraiment plaisanter, surtout quand, dans les films. Maintenant, on est obligé d'inclure à peu près toutes les minorités, sinon tu te fais taper dessus. Tu te fais traiter de raciste. Enfin bon, bref, plein d'avis intéressants. C'est White, c'est Bret Easton Ellis. Et j'espère quand même un jour il nous ressortira un roman fictionnel, parce que j'aimais beaucoup ce qu'il arrive à sortir, mais j'y crois pas trop.
Moi j'attends avec. Il est pas encore sorti en poche. Je vais attendre qu'il sorte en poche.
Il est sorti il y a même pas un an. J'ai eu la chance de me le faire dédicacer. D'ailleurs, j'en remercie jamais assez. Mon collègue Didier qui est allé faire la queue pour moi. Moi je n'ai pas eu la chance d'aller le voir.
D'accord.
Mais voilà, j'ai mon exemplaire dédicacé que je vais garder très longtemps.
Mais je l'avais trouvé, moi je l'avais vu chez Click.
Il était passé chez Click, exactement.
Chez l'émission inutile et incompréhensible de Mouloud Achour. C'est la caution banlieue, c'est la caution culture banlieue
non,
de,
y a
du
des
groupe.
Trucs bien des fois, non,
donc
je
voilà,
te
bon,
pas, là.
Je me permets, c'est mon émission, je me permets. Et je l'avais trouvé détendu, Bret Easton Ellis. Donc
l'avais trouvé comment?
Détendu. Je l'avais trouvé. Je m'attendais pas.
L'exercice.
C'est pas James Ellroy quoi. James Ellroy, tu sens qu'il peut te mettre un coup de tête à n'importe quel moment. Quoi.
Ah putain, j'en reparlerai de James Ellroy parce justement,
lui, tu l'as rencontré.
Incroyable. Je l'ai rencontré. Je lui ai fait signer un livre et j'ai commencé aujourd'hui son dernier livre.
Très bien, très très bien.
Donc j'en parlerai pas encore parce que c'est 700 pages là et c'est beaucoup plus dense et compliqué. Les conditions sont pas les mêmes pour lire James Ellroy, mais bon, je suis dedans déjà et j'espère en parler avant la fin de.
Tu nous as choisi quoi comme illustration musicale?
Je suis allé très très loin, comme tu vas voir. Le bouquin de Bret Easton Ellis s'appelle White, donc j'ai pensé à l'un de mes morceaux morceau chouchou de ces derniers mois, qui est un morceau de la Fat White Family, qui
bon
s'appelle
choix.
Fit.
Ouais, très bon album. Voilà.
Donc ouais. Bon album, ouais, d'excellent, ouais.
excellent album,
et puis un morceau
concert.
Absolument imparable.
On envoie le pied.
Down there, down between my thighs, I can see it over and
voilà le générique de ce qui est pour moi ma série préférée, tout pays et tout style confondu. Rémi, tu as reconnu le générique de la série
Joséphine, non, Engrenage.
Engrenage, tout à fait. Alors Engrenage, série policière qui a débarqué sur Canal+ en 2005 dans un contexte totalement différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est une véritable avalanche avec plusieurs centaines de séries qui débarquent dans le monde quasiment mensuellement. Et aux États-Unis, c'est plusieurs centaines de concepts de séries et de pilotes qui sont tournés tous les mois. Je sais pas si tu te rends compte. C'est hallucinant. Et donc, Engrenage et Canal+ est un petit peu pionnier en 2005. Donc, c'est une série qui a été créée par Alexandra Claire et Guy Portier Sandarich. Alors, ça parle de quoi, Engrenage? C'est une série policière. Alors, à chaque fois, on part d'un fait divers, très souvent un meurtre, une disparition. Et l'affaire est suivie sous le prisme de quatre personnages principaux. Vous avez Lorberto, joué par Caroline Proust, qui est le capitaine Lorberto, donc qui est la chef d'un groupe de police judiciaire. Vous avez donc qui est la femme qui clairement met tout dans son travail, sa vie de femme passe après, on verra l'évolution à travers les saisons. Le procureur Pierre Clément, joué par le très beau Grégory Fitoussi, je sais qu'il a un fan club très important à l'écoute du Rockin' Chair. Troisième personnage extrêmement important, le juge Roban. Alors là, c'est joué par Philippe Duclos, c'est la rectitude de la justice, le côté absolument implacable qui lui est un peu le miroir du capitaine Berthaud, parce que c'est pareil, il a sacrifié toute sa vie à la magistrature. Et enfin, le personnage entre guillemets flamboyant et clivant de la série, c'est l'avocate Joséphine Carlson, jouée par l'incandescente Audrey Fleurot. Donc à chaque fois, donc on va dans des univers aussi différents que le trafic de drogue dans l'excellente saison 2 avec les frères Larbi, et on voit pour la première fois Reda Kateb dans le rôle de Mister Aziz, un rappeur plus agressif que créatif. Ça parle de tout, ça va parler de l'ultra-gauche, ça parle des scandales politiques, et à chaque fois on voit les personnages évoluer au fur et à mesure. Là on en est déjà à 7 saisons. La prochaine sera sûrement, à mon avis, la dernière, la huitième. Et on voit les personnages évoluer. Par exemple, le personnage de Pierre Clément qui arrive, qui est un jeune procureur vraiment plein d'ambition et surtout plein d'idéologie. Il est presque naïf et il va découvrir tous les dessous du parquet au niveau politique, au niveau corruption. Il se rend compte que parfois la justice est pieds et poings liés et qu'il va, entre guillemets, lier une alliance avec le juge Roban, qui lui, alors lui, la hiérarchie, il en a rien à foutre. Les pressions politiques, il s'en fout complètement. C'est le franc-tireur au parquet du tribunal de Paris. Et donc, on suit vraiment ces personnages. Il y a tout aussi les autres policiers du groupe du capitaine Berthaud, hein, Tintin, Gilou, qui sont aussi très bons. Hein, les seconds rôles sont aussi très bons. C'est à chaque fois, on part vraiment d'un petit fil. C'est comme si vous tiriez le fil d'une pelote de laine et vous tirez. Et l'affaire prend de l'ampleur. Et parfois, elle prend des ampleurs au niveau presque national, avec des intrigues politiques parfois fortes qui mettent nos personnages face à des forces qui les dépassent complètement. Donc moi, c'est ma série préférée parce que c'est la seule que j'ai pu revoir et que je revois très régulièrement avec plaisir. Et je redécouvre toutes les saisons ne sont pas parfaites. Il y en a qui sont plus ou moins bonne, mais la dernière était très très belle parce qu'elle était très très attachée au capitaine Berthaud qui venait d'avoir un enfant et qui avait beaucoup de mal à conjuguer sa maternité et son travail. Moi je trouve que c'est bien écrit, c'est bien rythmé. Je pense que c'est une série qui a dû s'inspirer quelque part d'une série que tu aimes beaucoup, toi aussi, comme The Wire, parce que ce sont des enquêtes qui prennent le temps. Hein,
il annonce d'ailleurs, je te coupe juste une seconde, oui. Il y a un podcast qu'ils ont fait sur la série Engrenage, on mettra le lien peut-être sur la page, parce qu'il est vraiment excellent. Si tu ne l'as pas écouté, je te le conseille. Ouais. Et j'en sais tout 8 épisodes de 20 minutes où des interviews des acteurs, etc. C'est génial.
Ça m'intéresse.
Et ils annoncent leurs influences. Et voilà.
Ah bah voilà, mais oui, parce que c'est ce qui est bien, c'est-à-dire que vous avez Canal+, ça fait quelques années plus tard, fait Braco. Et Braco, ils ont clairement été regardés du côté de The Shield. Bon, c'est pas une grande réussite. Moi, j'ai une petite tendresse pour la première saison. Après, ça part un peu en cacahuète. Mais moi, ce que j'aime bien dans le dans Engrenage, c'est qu'il y a un bon mix entre les enquêtes où ça prend son temps, où il cherche, et à la fois, il y a quand même le minimum de rebondissement et de rythme pour te garder en haleine d'un épisode sur l'autre. Donc je trouve ça dans le sens, je trouve que c'est une série très divertissante et qui à la fois vous donne des personnages très attachants qu'on suit, pour qui on a de la peine, que l'on déteste, que l'on admire. Il y a aussi l'infâme procureur Machard qui est le grand ennemi de Roban et de Pierre Clément, lui, alors un personnage aussi absolument incroyable. Donc si vous, je connais beaucoup de gens qui disent ouais moi je regarde pas de séries françaises, et bien si vous devez aller en piocher une, allez-y, franchement, Engrenage, c'est de la bombe bébé. Et oui, Rémi, je compte sur toi pour nous mettre sur la page du podcast,
ouais,
la page,
ouais,
le lien du podcast, parce que moi ça m'intéresse beaucoup. Et alors toi, tu avais choisi Fit pour Fight White Family pour le White de monsieur Bret Easton Ellis, et moi en contrepoint aux saisons d'Engrenage qui sont toujours extrêmement noires, c'est le moins qu'on puisse dire, et violentes, j'ai choisi une très belle balade de REM, At My Most Beautiful, extrait de l'album Up. À demain, mon camarade.